Alors, vous voyez ici quelques phrases de mon ami, mon collègue William Blake, dans un article qu'il a publié, genre 2006, quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'il parle de la nouvelle orthodoxie dans le monde anglophone et qu'il s'agit plutôt d'un roi qui collabore avec des élites et pas beaucoup d'absolutisme. Et vous voyez, social collaboration has been a distinctly anglophone preoccupation. Alors, à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est mon sujet aujourd'hui, cette question de nos trois historiographies. Je dis trois parce qu'il y a quelques différences entre les Anglais et les Américains. Alors, absolutisme, pourquoi pas? C'est un mot, après tout, pour tout le monde. Il évoque la monarchie française de l'Ancien Régime, celle de Louis XIV, surtout. Michelet, parlant du roi Soleil, n'a-t-il pas dit justement, et je cite, « Ce n'est pas seulement le plus long règne de l'histoire, c'est le plus important, comme type et légende du gouvernement monarchique. Louis XIV est la règle, le bien, le mal, le pire, on a tout imité de lui. » Il est le vrai et le complet miroir où tous les rois ont regardé. Ils ont copié servilement sa cour, son administration, ses fautes surtout. » Fin de citation. C'est bien là le problème. Louis XIV est à la fois le roi type, la souveraineté vivante, et un légende, le tout puissant roi Soleil, le constructeur d'un palais qui est, comme lui, le palais type et une légende. Il n'est nul besoin de parler de l'influence du tableau de Rigaud sur les portraits royaux du XVIIIe siècle, ni de la manie de faire des nouveaux Versailles en Autriche, Prusse, Russie, ou bien plus tard le palais d'un fou en Bavière. À Schönbrunn, après tout, les jardins nous présentent les efforts de Jean Trahé, disciple d'André le Nôtre. Pour les médiévistes, on doit expliquer comment la monarchie de Charles V ou Charles VII est devenue l'absolutisme de Louis XIV. L'exemple classique est Jacques Prinen, qui résume ses idées en quelque sorte dans le titre d'un article qu'il a publié en anglais. Rex Christianissimus, un terme médiéval aux racines de l'absolutisme français. Franchement, il y a très peu d'historiens dont j'admire autant les travaux que ceux de Crinin, mais là, je dois l'avouer, je ne suis pas d'accord. C'est une perspective qu'il faut éviter à tout prix. Cela n'est pas seulement la perspective anglophone. Arlette Johanna, dans son livre remarquable, Le pouvoir absolu, vous voyez, qui vient de paraître vendredi dernier, critique ces mêmes analyses de la monarchie du XVe et XVIe siècle. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est intéressant. Parmi les XVIemistes français et anglophones, il y a beaucoup plus de concord. C'est surtout un problème pour les XVIIemistes. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. De l'autre part, il faut éviter aussi la tentation d'examiner la monarchie française de 1680 ou même de 1650 dans la perspective de son effondrement pendant les années 1780. Cette deuxième optique impose aux spécialistes de la Révolution et même ceux de la fin de l'Ancien Régime de ne presque jamais remonter plus loin dans leur lecture que 1661. C'est une lutte que je connais très bien. Il y a 20 ans, quand Cambridge University Press m'a proposé de faire un livre sur l'État dans la France moderne, ils m'ont donné comme les dates limites 1661-1789. J'ai protesté. Non, ce n'est pas exact. J'ai refusé. Après des longs et âpres débats, ils ont finalement accepté l'inclusion de la période de Richelieu. Ceux parmi vous qui ont lu le texte 95 savent que j'y ai même mis un chapitre sur Henri IV, sur la rubrique Introduction. Le texte se vend bien. Il est devenu dans les pays anglophones l'ouvrage de base des études doctorales de l'histoire de l'État moderne en France. Et on n'en parlera plus. Quand Cambridge m'a demandé une deuxième édition, il ne fut alors plus question d'écarter ni Richelieu ni le Vercellon. Mélanger les types et les légendes me paraît un pari assez douteux. C'est un risque, une confusion entre la réalité historique et la nécessité de simplification pour créer un modèle. Soit on tombe dans le piège de prendre le mythique pour le réel. On a donc ce bon mot de Louis XIV. L'État, c'est moi. Qui est sûrement un mythe, mais comme le dit fort bien Fritz Hartung dans son article de 1949, qui nous a expliqué ce mythe. Das Wort, l'État, c'est moi, ist allgemein bekannt. C'est quelque chose connu à tout le monde. Et c'est intéressant, ça se trouve toujours dans les manuels américains maintenant. Et c'est intéressant parce que les manuels américains de civilisation européenne citent toujours un de mes livres, il faut changer la phrase. Et si on voit les éditions des années 90, on voit Louis XIV a dit « l'État, c'est moi ». Mais maintenant, on dit « bien que Louis XIV n'a pas dit « l'État, c'est moi », ça, c'est l'essence de sa pensée. » Oui. Et sur les examens américains, il y a des grands exemples, des concours nationaux. Cette question est toujours là. Cette question est toujours là. C'est intéressant. Je pense à l'exposition sur Louis XIV à Versailles en 2009. La compte-rendu du Figaro s'intitule « Les arts, c'est moi ». Cela est encore pire, même si on accepte le mythe. La phrase vient d'un adolescent de 16 ans. Qui parmi nous voudrait que les gens prennent un de nos bêtises orales d'adolescents pour l'essence de notre pensée adulte? Pourtant, les spécialistes, mis à part, qui connaît les dernières instructions de Louis XIV au grand du royaume? Je cite, « Je m'en vais, mais l'État durera toujours si vous restez unis », qui sont attestés par le marquis de Dangeau, témoin de la scène. Saint-Simon dit des paroles légèrement différentes. Je ne veux pas semer la mauvaise herbe de la confusion, donc je dois commencer avec quelques mots sur les grandes lignes de concordance parmi les trois historiographies en question. Il ne faut pas exagérer nos différences. Hervé Drévillon, dans sa synthèse de 2011, « Les rois absolus », c'est une série « L'histoire de France » éditée par Jean Cornette, qui a plusieurs volumes avec des illustrations absolument magnifiques, qui traite de la période, son ouvrage, 1629 à 1715, établit un point commun. Je cite, « Incontestablement, le règne de Louis XIV fut autoritaire. » C'est peut-être un peu fort, ce mot « autoritaire », avec ses connotations néfastes du XXe siècle, mais surtout après 1690, il n'est pas complètement injuste. Je vous donne également une phrase de l'historien anglais Guy Rowlands. Je cite ici une communication privée. La chose importante, c'est la faible remise en cause des droits institutionnels dans la période 1675 à 1756. Vous voyez que tout le monde cite des dates différentes. Ça, c'est une chose que j'adore avec cette discussion d'absolutisme. On donne toujours des dates différentes. Il n'est jamais question des mêmes dates dans n'importe quel ouvrage. Et je dis toujours à mes élèves, par exemple, la théorie du droit divin. Oui, on cite toujours un texte anglais du début du XVIIe, mais on donne, par exemple, un roi de France, Louis XIV. Alors, pour moi, ça s'en fout. Pour moi, il est toujours amusant de voir de jeunes historiennes anglophones mélange les revisionists, c'est-à-dire la trinité impie de Bike, Collins et Merrim. Or, qui a vraiment lu les ouvrages de Bike, Collins et Merrim sait très bien que leurs perspectives sur l'absolutisme sont assez divergentes. La meilleure synthèse de la position de Merrim est dans l'ouvrage d'un de ses anciens étudiants, Nicholas Henshaw, The Myth of Absolutism, dont le titre explique en lui-même la perspective. Nous pouvons penser aussi de deux synthèses de Peter Campbell, qui est ici aujourd'hui, ancien doctorant de Madame, l'Ancien Régime et Louis XIV. La seconde est peu connue en France, mais elle existe en traduction italienne et portugaise. C'est vrai? Le portugais, ça vient d'apparaître ou pas? Oui? Peter? The Portuguese is out, isn't it? Alors, chez les Américains, les jeunes chercheurs pensent que la nouvelle orthodoxie, dont parle Bill Bike, ce sont les évangiles de Bike et de Collins. Et comme chaque génération d'historiens doit obligatoirement mettre en cause l'orthodoxie de la génération précédente, nous voyons pas mal de travaux qui essaient de réanimer la notion d'absolutisme, cependant pas du tout dans le sens du mot des années 1980. En Angleterre, avec autant de participants du séminaire, toujours existant, sur l'histoire moderne, dirigé pendant plus de 30 ans par Metham, les historiens se méfient complètement du mot « absolutisme ». Ce qui est aussi significatif, c'est que l'historiographie anglophone sur l'État français a complètement renouvelé les études de l'État anglais de la même période. On peut citer parmi d'autres les ouvrages de Michael Braddock ou de Steve Hindle. Et dans les conversations avec les deux, des conversations personnelles, tous les deux m'ont dit c'est exactement de l'historiographie de la France qu'ils ont pris leur nouvelle perspective sur l'histoire d'Angleterre. Chez les médiévistes anglais comme John Watts, on ne recherche plus les racines d'un absolutisme à l'anglaise. Nous pouvons penser à l'école de Patrick Collinson et son modèle d'un Commonweal anglaise avec son Commonwealth Man. Pour Bike et moi, la centralisation de la monarchie fut réelle, mais comme un processus de négociation, non d'imposition par voie de puissance absolue. Et je cite ici, « C'est un choix lucide des élites urbaines et curielles influentes. » C'est l'expression de Arlette Joanne. Oui, le roi et son administration centrale s'expliquent toujours par référence à sa puissance absolue, ou sous Louis XIV, surtout son autorité absolue. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais il ne faut pas prendre à la lettre les explications des gens politiques. Personne dans cette salle le fait avec les discours de M. Hollande, ou de M. Obama, ou même de Mme Merkel. Quand le président des États-Unis, qui est, souvenez-vous, un ancien professeur de l'histoire du droit constitutionnel de la faculté de droit de l'Université de Chicago, pas uniquement professeur de droit, mais professeur de l'histoire du droit constitutionnel, quand on entend M. Obama dire qu'il a le droit, sous notre Constitution, de tuer un citoyen américain en dehors non seulement de tout procès, mais même du système judiciaire entier, parlons-nous de sa puissance absolue? Quand Mme Merkel et ses alliés hollandais, finlandais et ceux de la Banque centrale d'Europe demandent la confiscation des capitaux des comptes bancaires en Chypre, est-ce que c'est par puissance absolue? Pourtant, la création de la capitation par Louis XIV serait un acte de puissance absolue. Alors pour moi, non, il s'agit plutôt d'une décision arbitraire, autoritaire, pour prendre le mot de Trévillon, mais pas absolue, selon notre acception actuelle du mot. C'est une décision prise par tant de crises, et recherche une feuille divine. C'est ce que M. Obama a fait quand il a pris sa décision d'assassiner M. Anwar al-Awlaki au Yémen, et encore pire, la décision d'assassiner 2 semaines plus tard son fils, le fils de M. Al-Awlaki, un fils de 16 ans, tous les deux citoyens américains. Je vous signale la décision Roper contre Simmons de 2005 par laquelle la Cour suprême américaine interdisait la peine de mort pour les personnes de moins de 18 ans. Oui, et on voit le président américain fait assassiner un gosse de 16 ans. Vous pouvez lire les débats de 1787 à l'Assemblée constituante américaine. Si vous voulez connaître les opinions de Benjamin Franklin, George Mason, James Madison et les autres sur cette question. En tant que citoyen américain, je trouve de telles décisions abominables, mais je ne les cite pas ici pour les dénoncer, ni pour dénoncer les sophistes de nos jours. Je les cite parce que même dans nos systèmes de démocratie libérale, nous pouvons trouver des décisions d'une légalité douteuse prises pour des raisons d'urgence. Cette règle, la liberté d'action exécutive dans une situation d'urgence, remonte assez loin dans l'histoire. Un des documents les plus rigoureux pour la défense des libertés locales, y compris la vôtre de toute imposition faite pour le roi de France, la charte au nom de 1315, laisse une exception pour, et je cite, « la nécessité urgente », c'est-à-dire, aux yeux des Normands, une invasion anglaise. Le roi de France prend d'une toute autre optique, comme vous savez. Dès Louis XIII, le roi se moque même des formalités d'un vote normand des impôts. Pour moi, cette locution absolutisme nous absout d'une vraie analyse du système politique de la monarchie. Je suis complètement d'accord avec la formule de mon collègue anglais, Guy Rowlands, qu'il nous faut avant tout d'éviter, et je cite ici en anglais parce que c'est génial, « fuzzy notions », notions nébuleuses peut-être en français, de l'absolutisme comme le moteur explicatif de nos recherches. Si nous revenons à Drevillon, le sous-titre de sa première partie, « L'absolutisme extraordinaire », 1629-1660, donne une bonne idée des divergences des écoles françaises et anglophones. Oui pour l'extraordinaire, non pour l'absolutisme. Pour moi, le couple absolutisme-extraordinaire n'a aucun sens. C'est un peu comme de nos jours, on part pour la Grèce ou la Chypre d'une dette souveraine. Alors la Grèce, ni le Grèce, ni le Chypre n'a une dette souveraine dans le sens, le vrai sens du souverain. Alors, pour moi, le couple absolutisme extraordinaire n'a aucun sens du point de vue de logique. C'est la manifestation idéale des fuzzy notions de Rawls. L'absolutisme est le mot pour un système. Et il ne peut pas être un politique des exigences comme celui des années 1630 ou 1640. À cette nouvelle robe linguistique, absolutisme extraordinaire, je préfère l'ancien habillement tissé par Georges Page, en 1932, je cite, « dans une monarchie dont les imperfections ont passé en habitude et dont le désordre fait, et non sans utilité, partie de l'ordre de l'État. » L'ordre d'État. Ou celui d'Arlette Joanne, si bien expliqué dans ce chapitre, dont le titre est « Pouvoir absolu, arme extraordinaire ». Je suis grand admirateur du romancier portugais José Saramago, qui a bien dit que l'histoire, c'est le chaos, et l'ordre que les historiens y voient est notre propre construction, aussi fictive qu'un roman. Par contre, je suis absolument d'accord avec Drevillon pour dire que cette politique d'exigence de solutions extraordinaires et souvent contradictoires a sapé la légitimité de la monarchie et que Louis XIV a senti assez fortement la corrélation entre les deux. Comme Drevillon a si justement souligné, Louis XIV avait une manie pour l'ordre. L'ordre comme la loi est le pilier de la légitimité et de la monarchie elle-même. Or, qu'est-ce que la voie vivante de l'ordre? La loi. Souvenez-vous que la plupart des ministres de l'Ancien Régime étaient des juristes par formation et profession, et que leurs agents, les maîtres des requêtes, les intendants, les conseillers d'État, étaient presque tous des anciens juges. On peut aller plus loin, écoutons encore le grand Lavis, je cite. C'était d'ailleurs une opinion répandue dans l'ancienne France que l'autorité royale était absolue, mais non point despotique. Le roi lui-même n'admettait pas que sa légitime autorité qu'il tenait de Dieu fut un tyrannie. Je vous ai déjà parlé, il y a 2 semaines, des leçons données à Louis XIV par son précepteur. Un bon roi n'accepte pas autre supérieur que Dieu, la justice et la raison. écoutant encore l'avis, parlons cette fois de Louis XIV, Louis voulait que son autorité fût absolue, mais il ne croyait pas qu'il en pût user à sa fantaisie. Lavis cite les mémoires pour l'instruction du dauphin. Le principal objet que nous nous sommes proposés a été de faire régner la justice et de régner par elle dans notre État. Des ouvrages récents français, comme l'excellent livre d'Olivier Chaline, règne de Louis XIV, et celui de Madame Joanne, font la même distinction entre la théorie de l'absolu et le frein de la justice et de la raison. Quels sont les points communs entre les absolutistes français et les hérétiques anglophones? Le système politique de la France du XVIIe et XVIIIe siècle est hyper personnalisé. Cette qualité a plusieurs conséquences. Premièrement, le roi peut agir d'une manière extrêmement arbitraire. Deuxièmement, le roi a le plus de marge de manœuvre dans le domaine de la politique étrangère, y compris le droit de déclarer la guerre et de faire la paix. Troisièmement, et c'est intéressant, si on regarde les documents de l'Assemblée constituante américaine en 87, les députés pensent que ça, c'est la plus grande faute du système anglais, que le roi peut faire la guerre. Il y avait une grande discussion sur les pouvoirs du président. Il n'y avait pas une seule personne dans la Chambre qui soutient l'idée que le président peut lui-même déclarer la guerre. Et la discussion, il y a une phrase extraordinaire de George Mason, qui est bien connue parce qu'il est la source plus ou moins des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, qui sont en quelque sorte en traduction de ces déclarations des droits pour l'État de Virginie. Alors, Mason a dit, quelqu'un lui a posé la question, parce que c'est lui qui a dit que le système américain doit faire une distinction entre la guerre et la paix. Pour une déclaration de guerre aux États-Unis, il faut l'assentiment de la Chambre des députés et du Sénat, les deux. Pour faire la paix, il ne faut que l'assentiment du Sénat. Et quelqu'un a posé cette question à Mason, parce que c'est son idée. Pourquoi ? Et Mason a dit, parce que je veux qu'il sera le plus difficile possible de déclarer la guerre et le plus facile possible de faire la paix. Et ça, c'est vraiment l'opinion de tout le monde. Alors, troisièmement, les agents de la monarchie, soit le ministre d'État le plus orgueilleux, soit le clerc d'élection le plus humble, mélangent toujours leurs obligations vis-à-vis l'État et leurs intérêts particuliers, c'est-à-dire familiaux. Roland Rowlands les appelle dynastiques. Nous pouvons penser ici aux membres de la famille royale qui, d'après Michel Antoine, détenaient en tant que particuliers des actions de la ferme générale. Quatrièmement, le système gouvernemental, comme ses officiers, entremêle le public et le particulier. Le cas le plus important, c'est la naissante dette publique qui est comme une Macédoine faite de la dette personnelle du roi, celle des ministres, celle des financiers, celle des officiers moyennaux, et celle de plusieurs corporations, comme les grandes villes, Paris surtout, mais aussi des villes comme Rouen, Lyon ou Lille, ou des provinces, comme la Bourgogne, ou même des simples corps de métier. Je ne parle plus sur cette question, mais je vous conseille de lire l'article de Robert Desimon dans la collection extraordinaire d'articles édité par Jean-Yves Grenier, « La dette publique dans l'histoire ». Si d'aucuns parmi vous connaissent Madame Christine Lagarde, vous rendriez un grand service à la zone euro en lui recommandant la lecture de l'introduction de M. Grenier. Alors, il n'est pas besoin non plus de signaler les grandes lignes d'agrément sur l'évolution de la machine étatique. Si nous prenons, par exemple, comme point de comparaison, les années 1530, 1580, 1630, 1680, 1730 et 1780, qui peut nier le progrès extraordinaire de la monarchie et de l'administration? Mais ceci dit, je crois que les anglophones ne veulent pas dire qu'il s'agit d'un État centralisé. En 1530, huit, un petit nombre d'officiers royaux, une armée largement sous le contrôle des grands, une fiscalité naissante, une législation assez confuse et mal connue. En 1580, augmentation assez importante du nombre d'officiers, ce qui permet trois changements fondamentaux. Premièrement, l'épanouissement de l'action par ces nouveaux agents qui travaillent, il faut le dire, non seulement pour le maître royal, mais souvent pour les grands, comme le duc de Guise. Il y a quelques informations là-dessus dans les mémoires du Sully, par exemple. Deuxièmement, l'intensification du savoir-faire, surtout parce que le roi possède et des moyens, ses officiers, et l'impulse de plus de renseignements sur son royaume et ses peuples. Et là, pour moi, le meilleur exemple, c'est l'Assemblée des notables de 1583, qui est très mal connue. Et le roi a demandé aux trésoriers généraux, dont tous les généralités, de rédiger des mémoires assez détaillées sur ses finances, sur le domaine et tout ça. Il en reste au moins trois, j'en ai lu deux, généralités de Rouen, en Bretagne et en Poitiers. Je n'ai pas encore lu le document pour Poitiers. Il y a énormément de renseignements dedans. Troisièmement, l'identification des intérêts de l'État et de ceux d'une grande partie de la population aisée qui détient en masse de plus en plus important de la dette. J'ai déjà parlé du changement qui s'opérait de l'idée de l'État comme équivalent de la communauté civile pendant le premier discours. En 1630, c'est une grande année de bouleversement. D'abord, bien entendu, la fameuse journée des dupes, mais aussi, comme a si bien montré Richard Bonney il y a 37 ans, une rupture dans le système des intendants. Dès 1634, nous voyons des intendants attachés aux généralités et non plus au gouvernement. Mais ce n'est pas un système universel à ce moment-là. Il n'y avait pas à ce moment-là, par exemple, un intendant en Bretagne. L'expansion du système des élections en Languedoc, en Bourgogne, en Dauphiné et en Provence en 1630 offre un cas typique et de la réalité de cette période et de la rupture entre l'historiographie anglophone et francophone. Les États du Languedoc et de Bourgogne et l'Assemblée des communes de Provence ont racheté les offices des élections, peut-être un cas de la souplesse de la politique de Richelieu. Mais si nous lisons le grand historien américain Russell Major dans son rouage magistral sur Representative Institutions in Early Modern France de 80, nous trouvons une bonne présentation de l'interprétation que la suppression des élections fut l'idée de Marillac et non de Richelieu. Donc nous voyons les marchandages avec les trois provinces dans une toute autre lumière. Russell Major, dans sa dernière publication, fut très découragé par la disparition des noms de George Page ou de Dupont-Ferrier des bibliographies anglophones. On peut exprimer les mêmes sentiments autour de son nom dans les bibliographies francophones, surtout des spécialistes du XVIIe siècle, pas tellement ceux du XVIe. En 1630, Richelieu transféra la plupart des gouverneurs de province. Le prince de Condé, par exemple, passa de province en Bourgogne. Les historiens français voient dans ce rebattage des cartes un des moments clés de la victoire de Richelieu sur les grands. Ça, c'est aussi de la perspective de la monarchie. Les anglophones, en revanche, y voient le sort de la Bourgogne, où les princes de Condé deviendront une espèce de vice-roi. Les travaux de Mark Potter et de Julian Swan montrent l'efficacité des États de Bourgogne dans leur défense des intérêts économiques, sociaux et politiques des élites bourguignonnes, aussi bien que l'ouvrage de Katia Begin nous révèle le sort des Condés. Oui, le prince de Condé est un vice-roi en Bourgogne, mais ils dépendent aussi des bienfaits du roi pour une bonne portion de ses ressources. Daniel Roche, dans son préface au livre de Begin, la loue pour sa connaissance de la bibliographie anglophone, une dimension, et je cite, particulièrement importante et novatrice. C'est une phrase de 2001. Cette influence anglophone lui permet, c'est-à-dire Begin, de mettre en question deux assumptions de l'historiographie existante. Le modèle de sociabilité associé à Norbert Elias et le modèle de bureaucratisation associé à Max Weber. d'après Roche, l'étude de Begin montre comment le système qui paraît bureaucratique à Versailles doit, en province, toujours s'accommoder avec le clientélisme et la persistance de la puissance des pouvoirs locaux. La gouvernance reste un négociation permanente des avantages financiers, fiscaux, pécuniaires. Moi, j'ajoute à cette liste des avantages politiques, sociaux et culturels. Si l'on veut comprendre la complexité de ce système politique en Bourgogne, il faut lire deux autres ouvrages anglophones. Premièrement, celui de James Farr, A Tale of Two Murders, Passion and Power in 17th Century France, de 2005, qui donne une micro-histoire d'un crime de passion, l'assassinat de Pierre Bellay, président de la Chambre des comptes de Dijon, par son cousin Philippe Giroux, président au Parlement de Dijon. Giroux est l'amant de la femme de Pierre Bellay, Marie Fiotte, fille de l'ancien premier président de ce Parlement. Et deuxièmement, celui de Michael Breen, Law, City and King, Legal Culture, Local Politics and State Formation in Early Modern Dijon, 2007, qui nous donne une perspective sur les relations de plus en plus hostiles entre les avocats de Dijon et les parlementaires, soutenus par la royauté. Là, on voit un des derniers virements de l'historiographie anglophone, et là, je dis surtout américain. On reprend l'idée de l'absolutisme, non celle des années 1960 ou même 80, ni celle des historiens français, mais un absolutisme qui fait place à la collaboration, une collaboration qui peut cependant diviser les ethnies locales. La monarchie devient non seulement l'arbitre, mais la vraie source de pouvoir politique, même au niveau local. Mais il faut le dire, ce pouvoir reste dans les mains des élites locales. En 1680, en plein temps de Colbert, les jeux sont faits. L'investigation de la noblesse, la réforme de la législation royale, la mainmise sur les registres paroissiaux de 1667, la création d'un système d'enquête homologué, la ferme générale, le nouveau bilan des ressources avec une dépendance beaucoup plus importante sur les recettes d'impôts indirects, ce qui s'est passé aussi en Angleterre, en Hollande. Des réformes militaires, surtout dans la dimension de la logistique, l'utilisation de plus en plus commune des documents pré-imprimés. L'administration royale de la fin du XVIIe siècle a énormément de documents pré-imprimés, des centaines de milliers de documents. L'amélioration extraordinaire de la sécurité à l'intérieur du royaume, ce qui est un fait que nous, les historiens, sous-estimons toujours. Je vous cite comme exemple la thèse assez intéressante sur les paysans du petit pays de Montmorency, parue en 2008 par Florent Mérot. Elle montre que la paix de Louis XIV permet aux paysans de cette région de faire des investissements importants qui ont complètement modifié le paysage et leur situation économique. Nous avons deux autres témoignages assez intéressants qui nous révèlent la révolution de la sécurité sous Louis XIV. Vers 1690, dans un mémoire rédigé pour l'intendant de Paris, un des subdélégués lui a dit qu'il ne se sert plus des sergents pour visiter les tables qui n'ont pas payé leurs impôts. Il envoie une lettre par la poste. Il dit que c'est aussi efficace qu'un sergent, beaucoup moins cher, et ne donne aucune possibilité de désordre. Au début du XVIIIe siècle, le parlementaire bordelais, le marquis de Savignac, dans son journal, le Mémorial de Savignac, qui était édité par Madame Lemar, texte absolument extraordinaire, part de la robberie spectaculaire de la poste royale. Parmi d'autres boutins, les bandits prirent plus de 20 000 livres des deniers du roi. Au début du XVIIe siècle, personne dans le royaume n'avait jamais pensé à envoyer les deniers du roi sans escorte armée. C'est impensable. Et rappelons-nous, il n'y avait qu'un poste des lettres en ce moment-là. Je suis absolument d'accord avec Chaline quand il dit, et je cite, « L'état royal vu du village est devenu plus proche et aussi plus contraignant. La réalité intérieure du règne est ailleurs. On discute, on négocie, on transige, on patiente. Parfois, le pouvoir royal recule discrètement ou feint de ne pas s'apercevoir du refus de ses exigences. » Dans plusieurs domaines, la centralisation reste plutôt un songe qu'une réalité. citant le livre d'environ 1960 par Eugene Asher sur le système des classes maritimes, ou celui de Dessert sur le système de Colbert avec sa dimension purement personnelle, ou l'analyse des révoltes bretonnes de 1675 dans mon livre sur la Bretagne, ou l'explication des fondations languedociennes de l'édit de Fontainebleau par William Blake, ou le premier tiers du livre de Guy Rowland sur l'armée royale et la dynastie de Le Tellier-Louvois. Dessert nous présente le pillage des finances royales par Colbert et ses amis. Rowland nous présente la politique dynastique de Louvois et dynastique dans le sens de la dynastie de Le Tellier, non celle des Bourbons. Lisons la description des modalités financières des armées de Louis XIV pendant la Grande Guerre, de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Nous comprenons les limites d'un roi soi-disant absolutiste. Lavis, bien qu'il voit dans la politique culturelle de Louis XIV un bon exemple de sa politique absolue, et je cite, les arts et les lettres allaient devenir un service public dont la fonction serait de glorifier le roi. Fin de citation. Il reste conscient de la vie reste conscient de la profondeur du fossé entre un roi qui veut être absolu et la réalité en province. Je cite encore l'insuffisante autorité du roi sur les offices de judicateur et des finances et son insuffisante autorité sur les agents des compagnies fermières des aides. Gabelle et autres contributions expliquent le fait considérable et singulier qu'une royauté absolue contre laquelle aucune résistance politique n'était possible, ni même imaginable, ait été si mal obéie et se soit accoutumée à la désobéissance continuelle comme à un état normal. En 1730, il n'est plus question de roi soleil, mais de roi de paix. La société et l'économie française sont en plein essor, en pleine transition vers le monde capitaliste. Partout dans les petites villes, nous voyons une révolution sociale et économique. Nous voyons aussi un changement de politique de toutes les villes. Une ville qui dépensait la part du lion de ses ressources sur sa défense, murailles, armes, canons en 1680, si elle n'était pas en région de frontières, voulait alors démolir ses murailles et améliorer ses rues et ses voies d'eau. Partout, on dépensait de plus en plus d'argent pour les pavés, l'éclairage et l'amélioration de la vie collective. Au milieu du siècle, à Bordeaux, nous voyons le premier parc public en France, initiative collective de la ville et de l'intendant. Dans les campagnes, nous sommes au début du contrôle général d'Horry et donc au début de sa grande campagne de construction des chemins royaux. L'armée n'a qu'un tiers des effectifs qu'elle avait eu pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Tout le pays profitait de ce dividende de paix. La bureaucratie royale, et en contraste avec mon ami Peter Campbell, par exemple, j'ai vu qu'une vraie bureaucratie moderne et non pas weberienne existe en 1730 et partout plus efficace qu'au temps de Colbert. La monarchie a toujours du mal à venir au but de ses réformes. Et là, je pense à la tarifiée, si bien expliquée par Madame Tuzery, qui est aussi. Mais l'État possède des mines d'informations inexistantes en 1680. Je peux citer deux. Des renseignements des registres paroissiaux, dont la monarchie dispose d'un exemplaire dès 1667. Et, deuxièmement, des registres du centième denier. Dès environ 1710, ce qui permet, pendant la guerre de la succession de Pologne et celle de la succession d'Autriche, une meilleure administration du Xe et dès 1749 du XXe. Les rôles d'État montrent l'emphase qu'on place sur les détails économiques, au moins en Normandie et en Champagne. Les gens pensent d'une manière plus exacte. Parmi des centaines de témoignages que j'ai vus des procès du XVIIe et du XVIIIe siècle, je peux vous signaler la distinction entre ceux du XVIIe siècle, quand le témoin interrogé sur son âge réplique presque toujours « environ 40 ans, environ 50 ans », et ceux du XVIIIe siècle, qui répond des témoins, répond presque toujours « 37 ans » ou « 48 ans ». Je dois aussi faire mention des recherches d'Antoine Follen sur le village sous l'Ancien Régime. Il parle de la municipalisation des villages. c'est-à-dire que les villages sont dotés des institutions d'un personnel permanent qui dirige leurs rapports avec l'administration centrale. Un seul exemple. On envoie le billet de la taille à qui dans le village au XVIIe siècle? Pas question du juge seigneurial, ni du curé. La législation royale interdisait l'ingérence de l'un et de l'autre dans la confection des rôles d'État. XVIIe siècle, il y avait parfois des syndics, mais souvent, il n'y en avait pas. Au XVIIIe siècle, d'après Follin, il y avait des syndics partout et la communication entre le village et l'administration royale marche beaucoup mieux. À vrai dire, nous savons très peu sur l'État français de 1730. L'ouvrage de Madame Touzeri sur la taille terrifiée, mis à part, le seul ouvrage important qui traite cette période, et seulement elle, c'est le livre de Peter Campbell, Power and Politics in Old Regime France. Volker Hunek, dans son compte-rendu de Historische Zeitschrift, a dit que, ces défauts mis de côté, l'ouvrage de Campbell, je cite, « demande aux lecteurs de repenser leurs idées reçues sur le système politique de l'Ancien Régime. » Fin de citation, c'est ma traduction. Mais si nous lisons l'historiographie française, nous ne trouvons presque jamais une mention de cet ouvrage. C'est bien dommage, parce que Campbell traite le gouvernement de Louis XIV comme un système politique, et le roi et le cardinal Fleury comme les managers du système. Et ça, c'est une bonne question pour le gouvernement français de cette époque-là. Le roi, les ministres, comme des managers d'un système politique. Il y en a des bons et des mauvais. Il est parmi les premières de prix au sérieux la cour comme centre politique. Nous pouvons voir son influence dans les travaux récents sur la cour. Mais les historiens français peuvent faire une utilisation beaucoup plus simple, non seulement de ses renseignements empiriques, mais de ses analyses. Alors, le temps passe. Donc, et je passe. Je ne parle pas de 1780 parce que ça, c'est un autre monde finalement. Et je vais reprendre le texte un peu plus tard. Si nous parlons de rupture entre les optiques françaises et anglophones autour de l'absolutisme, nous devons penser surtout aux époques de Richelieu et de Louis XIV. Tout récemment, nous voyons un renouveau du concept de l'absolutisme dans le monde anglophone, avec des travaux de Sir Chapman sur Pontchartrain, Mark Potter sur la Bourgogne, Daryl Dee, ancien doctorant de William Blake sur la Franche-Comté. En France, l'influence de l'historiographie anglophone sur Olivier Chaline, par exemple, est claire. Aux États-Unis, nous attendons la publication par Greg Monahan de son livre sur les camisards, qui donne une nouvelle perspective sur ce triste épisode, et celle du livre de William Blake sur l'année 1695. Oui, l'histoire d'une seule année, une micro-histoire de l'État, en quelque sorte. En Angleterre, Guy Rowlands vient de publier un nouveau livre, The Financial Decline of a Great Power, War, Influence and Money in Louis XIV's France. Je ne peux que citer la description donnée par la presse, parce que le livre n'est pas encore disponible. Et je cite « L'abaissement financier d'une grande puissance demande une explication. La guerre de la succession d'Espagne aboutit à une série d'expédients de plus en plus désespérés, exacerbés par la maladresse ministérielle qui a mené au chaos. Le manque de contrôle des financiers les laisse percer les murailles des ministres. C'était un complexe militaire industriel avant la lettre. La banqueroute financière entraînait le déclin de la France et la fin de sa prééminence européenne. » Dans un livre que j'admire beaucoup, Robert Desimon et Fanny Cossandy se sont demandé pourquoi presque tous les livres traitant de l'absolutisme ne donnent jamais une définition de ce concept. Les sources, genre à grand public, par exemple Wikipédia ou des manuels scolaires, prennent leur définition des juristes, qui donnent toujours une définition qui date d'il y a 40 ans. Par exemple, Reynaud dans le dictionnaire de philosophie politique, je cite, « un type de régime politique dans lequel le détenteur d'une puissance attachée à sa personne concentre en ses mains tous les pouvoirs, gouverne sans aucun contrôle. » dans le dictionnaire de Larousse, système politique dans lequel le pouvoir est concentré entre les mains du souverain qui en exerce tous les attributs, législation, justice, administration. Cette définition est absolument ridicule. Tous les pouvoirs. C'est comme si personne en France n'avait jamais lu Bourdieu, sans parler de toute l'historiographie anglophone des 40 dernières années. Revenons à la synthèse de Drevillon, un grand spécialiste de l'armée de Louis XIV. À la fin de son ouvrage, Drevillon donne un bilan d'historiographie sur la monarchie française du XVIIe siècle. Là, il pose la question, absolutisme centralisateur ou compromis locaux. Cette juxtaposition nous donne une bonne parallèle, le contraste entre l'historiographie française, largement fidèle au modèle de l'absolutisme centralisateur, et l'historiographie anglophone, source du modèle du compromis local. Pourtant, à l'exception de l'ouvrage de Richard Bonney sur les intendants, qui date de 1976, pas une seule mention de la littérature anglaise, ni même des ouvrages anglophones disponibles en traduction française. Ce qui rend cette présentation particulièrement bizarre, c'est que la section suivante, « Servir ou se servir », donne une analyse approfondie de l'historiographie anglophone sur les clientèles. Nous avons même quelques tables tirées du grand livre de William Blake sur le Languedoc. Cependant, en lisant Atelier 2, la monarchie absolue mise en question à la fin de l'ouvrage, on n'a aucun sens de la critique anglophone du modèle centralisateur, sauf pour l'impact des clientèles. Mais cela est inspiré de la tradition française, non seulement de Mounier, mais même de notre maître Lavis. N'a-t-il pas écrit que Louis XIV, que la distribution de grâce est un des moyens de gouvernement qui lui semble le plus efficace? Dans sa présentation des juridictions locales, par contre, Drevillon ne dit pas un mot sur des ouvrages anglophones, tel que l'ouvrage de Zoe Schneider, The King's Bench, Bailiwick Magistrates and Local Governance in Normandy, 1670-1740, de 2008. Je veux parler pendant quelques minutes de cet ouvrage. Dans la deuxième édition de mon livre, The State and Early Modern France, 2009, j'ai témoigné mon admiration pour l'explosion post-94 des bonnes études sur la monarchie française du XVIIe et XVIIIe siècle. Ces études, parmi lesquelles le livre de Drevillon sur l'impôt du sang, m'ont permis de faire d'importantes améliorations dans la présentation de plusieurs questions. Mais j'ai également dit que parmi tous ces livres, deux seuls m'ont changé l'optique sur une question fondamentale. Celle de Follin, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, et celle de Madame Schneider. Il est de loin la meilleure explication du système judiciaire local de la monarchie. Et je ne cite pas en anglais quelques comptes rendus. Un de Gail Bosinger, qui a fait un livre sur l'île à la fin de l'Ancien Régime, et l'autre de Tom Kaiser, qui est un grand spécialiste de la fin de l'Ancien Régime et de la Révolution française. Mais je vous donne leurs conclusions. Quatre conclusions significatives, à mon avis. Excusez-moi, je dois trouver une phrase. Et voilà. Quatre conclusions significatives, d'après eux. Premièrement, les offices de judicateurs, au moins en Normandie, furent rentables et donnent aux juges les moyens de dominer leur pays. Deuxièmement, dans l'écrasante majorité des cas, et près de 90% des procès étaient des cas civils, le coutume réglait la dispute, qui n'avait rien à voir avec la législation royale. Évidemment, il y a un mélange avec la puissance du roi et les coutumes. Troisièmement, que les systèmes judiciaires français et anglais se ressemblaient beaucoup est précisément le contraire de ce qu'on pense. L'administration centrale anglaise avait plus de pouvoir sur ses juges locaux que la monarchie absolue en France.
Et quatrièmement, et là je dois changer de texte pour une seconde, que la division arbitraire royale, seigneuriale, n'est pas forcément valable.
Dans le bailliage de Caux, par exemple, les juges royaux sont aussi des juges seigneuriaux. Pendant plusieurs années, il occupe le même tribunal pour les deux justices, un jour comme juge royal et le jour suivant comme juge seigneurial.
On peut disputer. On peut contester les conclusions de Madame Schneider, mais on ne peut pas les ignorer.
Ce qui est encore pire, c'est que dès 2009, personne dans le monde anglophone ignorait ces recherches. Donc, purement dans le domaine empirique, les anglophones et les francophones n'avaient pas la même base de données. Rien de moins étonnant que leur chemin explicatif bifurque. Et c'est là que nous voyons la distinction fondamentale dans les historiographies des 30 dernières années, à mon avis. Dans le monde anglophone, nous avons surtout des études de l'administration locale. Dans le monde français, nous avons des études de l'administration centrale, soit l'administration de la guerre, soit celle des finances, soit la diplomatie. Pensons de la discussion de la fiscalité de Richelieu par Trévillon. Pas un mot sur mon livre « Fiscal Limits of Absolutism ». Cependant, en contraste avec les travaux de François Bayer, qui cite beaucoup, par exemple, j'ai fait la plupart de mes déprimants en province, non pas à Paris. Mon livre révèle d'une toute autre problématique, l'analyse du système financier à partir de la base. Je sais, par communication personnelle, que ma problématique a inspiré des historiens en Angleterre, en Espagne et à Naples à prendre cette optique vue de la base pour des études des systèmes fiscaux des trois monarchies en question. En France, on peut au moins prendre en compte l'image assez différente d'un système vu d'en bas. Les spécialistes des finances, comme Bayard ou Philippe Hamon ou Joël Félix, connaissent au fond non seulement mes recherches, mais ceux de Bonney, Dent, Potter, Hoffman, Cross, Bossingen et les autres spécialistes anglophones de l'histoire des finances. C'est un peu bizarre que les synthèses françaises sur l'État, pour la plupart, les ignorent. Et là, je mets Chaline en exception. Vu de Paris, c'est une fiscalité d'absolutisme. Vous, des provinces, c'est un autre monde. Rien d'étonnant qu'un Lucien Bailly, le grand spécialiste de l'histoire de la diplomatie, voit une monarchie absolue. C'est sûrement dans le domaine des relations étrangères que le roi a le plus d'indépendance. Par contre, dans une étude des États de Bourgogne, de Bretagne, du Languedoc, rien d'étonnant que le roi paraisse aussi peu absolu. Notons qu'il s'agit, ce n'est pas seulement une optique anglophone, on peut penser de l'ouvrage de Madame Le Guay, qui est arrivée aux mêmes conclusions sur les États d'Artois, Flandre, Wallonne et Quimbrécy. Décimo et Crossandi trace l'histoire du mot, qui est un néologisme de la période 1797-1830, si nous prenons les dates des premières utilisations en français par Chateaubriand et en anglais. Pour les historiens du 19e siècle, surtout des anglophones, c'est un mot utile pour la description de la monarchie française de l'Ancien Régime, ou même celle de Charles Quint, l'Espagne, sous la plume de Motley, grand historien américain du 19e siècle, de la révolte des Pays-Bas. Charles V fut un tyran et ses grands ministres ne sont que des esclaves. On est conscient que la monarchie de Louis XIV ne ressemble guère à celle de Louis XII, Louis IX. Et on veut organiser une maîtrise de la monarchie pour en faire l'analyse. Nous devons pas mal de formules de notre organisation chronologique de l'histoire de France pour ne parler de l'Europe aux grands historiens du 18e ou 19e siècle. Un Anglais comme Perry I. Anderson pouvait écrire en 1967 que l'absolutisme est, je cite, « la monarchie féodale réchargée et renforcée ». Alors, en France, on peut
penser des concepts comme celui de la guerre de, 30, de, la guerre de 100 ans, autre néologisme du 19e siècle. Or, quand je lis les documents du 17e siècle ou ceux du 14e et 15e siècle, je n'y vois ni de l'absolutisme ni de la guerre de 100 ans. Je vais vous donner un exemple de la guerre de 100 ans. À l'époque de Jean II ou Charles V, le roi demande l'aide financière à ses sujets contre, je cite, « notre ennemi, le roi d'Angleterre ». Sous le règne de Charles VI, on parle de, et je cite, « nos anciens ennemis, les Anglois ». Ce n'est pas la même chose. Un ennemi qui est le roi d'Angleterre et les Anglois. Moi, je lis dans cette transition en plusieurs sens. Avec l'absolutisme, c'est plus ou moins la même chose. On ne donne pas une définition de l'absolutisme parce que c'est une assumption a priori. Moi aussi, l'absolutisme m'a servi comme assumption a priori aux années 90 et 80, 70 et 80. Mais dès mon premier livre, qui porte le titre « Fiscal Limits of Absolutism », j'ai eu des doutes. C'est le titre donné par l'éditeur. Mon titre préféré était « The sinews of the state », les nerfs de l'État. C'est une expression de la main de Richelieu. Les impôts sont les nerfs de l'État. L'expression typique du 16e et du début du 17e est légèrement différente. On écrit presque toujours « les impôts sont les nerfs de la guerre ». Alors, tout cela vient évidemment de Cicéron qui a écrit que les impôts sont les nerfs de la République. Richelieu fait le glissement République-État. C'est fascinant qu'au même moment, en 1988, l'historien anglais John Brewer ait publié son livre magistral sur le système fiscal de la Grande-Bretagne moderne, The Sinews of Power, les nerfs du pouvoir. Au début des années 90, je travaillais sur deux livres, un sur la Bretagne, l'autre une synthèse sur l'État dans la France moderne. Dès la première page, je dis que je n'utilise pas le mot absolutisme dans ce livre, mais bien franchement, sans donner une explication suffisante de mon choix. Cambridge m'a demandé de faire une deuxième édition avec quelques petits changements. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Cette deuxième édition de 2009 a 40 pages nouvelles, aussi bien que de nombreux changements dans les textes originaux. Là, j'essaie, dans une préface de vingtaine de pages, d'expliquer pourquoi je n'utilise pas le mot absolutisme. Français, anglophone, c'est peut-être le bon moment pour nous tous de revenir à nos racines. Nous pouvons inspirer du grand Michelet qui a écrit de la période de Colbert. En cette création multiple, tout se trouve à la fois, les lois, les instruments des lois, les choses avec les hommes, administration, industrie, commerce, enfin par-dessus, la machine à faire marcher tout, bien ou mal, la bureaucratie. Michelet voit un destin lamentable à cette construction sous les mains des ministres de la fin du règne. Ce qui saisit dans cette fin lamentable de 1750, c'est que toute la vieille machine, royauté, clergé, noblesse, s'enfonce et presque disparaît. Mais l'ordre, même extérieur, l'administration, vraie gloire de ce règne n'existe plus à proprement parler. Les dernières recherches montrent que la grande guerre de 1689 à 1740 s'impose des solutions de plus en plus désespérés, mais que les ministres de cette période essaient de faire des changements fondamentaux, surtout dans le domaine des impôts. Nous savons que Michelet a eu tort sur la bureaucratie, dans quelque sorte, l'administration, si on veut. Richard Bunny, dans son ouvrage sur Jean-Roland Mallet, montre clairement que le personnel subalterne du contrôle général ne s'est pas noyé dans les débordements des années 1708 à 1725. Les deux premières commis du contrôle général sont Mallet de 1704 à 1736 et Louis de Couturier de 1701 à 1724. Les deux clercs de Le Couturier prennent leur retraite avec lui, l'un après 15 ans de service, l'autre avec 24 dans l'administration. La ferme générale avait des employés avec des décennies de service. Elle a même créé un système de retraite pour eux. C'est le premier système de retraite en France. Au milieu du XVIIIe siècle, nous pouvons lire des mémoires sur la question fondamentale de la bureaucratie. Comment en doit-on rédiger un mémoire ? Bureaucratie dans le sens de Max Weber ? Assurément pas. Mais une administration avec beaucoup de ses éléments fondamentaux, y compris son savoir-faire et son esprit de corps, oui. Attendez une seconde ici. Je dois changer de texte encore. Une seconde. Là. Une administration centralisée ? Non. Moi, j'aime bien la formule de Jean Barre dans son compte-rendu de l'ouvrage de Le Guay. Je cite. Les tendances centralisatrices de la monarchie absolue. Le Guay, pour le Nord, comme Julian Swann, pour la Bourgogne, montre l'expansion des pouvoirs des États provinciaux au XVIIIe siècle, surtout pour l'administration locale. En Bretagne, grâce aux travaux de Claude Nier, nous savons que le développement va de pair avec celui de Bourguignon. Pensant de l'extraordinaire, nous devons reconnaître que dès que les dépenses de l'État dépassent la capacité des couches moyennes de la société de fournir des ressources nécessaires, il faut trouver des moyens d'imposer la richesse des élites. Comme de nos jours, ce n'est pas facile. Et comme l'exemple anglais du XVIIIe siècle le montre, une institution nationale de consultation et de négociation est finalement indispensable. Ce qu'il faut, c'est le retour de la République. Mais ça, c'est une autre question. Et pour l'absolutisme, je crois que nous devons suivre la bonne pratique et de Michelet et de Lavis. Ni l'un ni l'autre n'a jamais utilisé ce mot dans leur traitement de Louis XIV. Je vous remercie.